Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'émission Regard sur le passé, animée par le service du patrimoine de la mairie. Vous êtes avec Annabelle et je vais vous parler aujourd'hui du cimetière des Noyers de la côte nord-ouest de l'Île-Dieu. Site funéraire important sur lequel je travaille de manière assidue depuis de nombreuses années, au gré des tempêtes et des grandes marées. Et comme vous allez le découvrir, les deux sciences humaines que sont l'archéologie et l'anthropologie nous ont permis de répondre à de nombreuses questions concernant ce site. Qui étaient ces personnes enterrées dans le sable de la dune? Quand ont-elles été inhumées là et pourquoi? Comment a-t-on enterré ces défunts et avec quelles pratiques funéraires? Nous voilà partis vers la côte nord-ouest de l'île, le nez au vent face à la mer, pour une émission en questions-réponses sur ce cimetière très particulier. Alors tout d'abord, combien de squelettes ont été découverts sur la côte nord-ouest? Depuis 1999, un total de 16 squelettes ont été découverts dans le sable de cette dune, entre la pointe des Quentins et la pointe du Butte, avec une grande concentration à la pointe de la Gournaise. Aujourd'hui, j'en conserve seulement 14 dans mon dépôt archéologique sur l'Île-Dieu, car les deux premiers découverts en 1999 ont été malheureusement perdus. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir été découverts sur la côte nord-ouest. En effet, plusieurs auteurs du XIXe siècle évoquent ce type de découverte, comme Olivier Jules Richard, qui en 1883, dans son ouvrage « L'Île-Dieu d'autrefois, l'Île-Dieu d'aujourd'hui » raconte. On aperçoit auprès de l'Anse de l'Apulente un cimetière isolé, et lorsqu'on arrive auprès, on y trouve pour tout monument funéraire que quelques pierres dressées et mal équilibrées, fournies par les roches du rivage, pour marquer le lieu où reposent, loin de leur patrie, quelques malheureux naufragés, inconnus et à jamais oubliés. À son tour, Jean Humeau raconte « Dans les années 1920, un gamin, intrigué par le manège de son chien, creusa le sable de la plage de la Planche à Puard avec un camarade. Ils enlevèrent, raconte-t-il, 50 à 60 cm d'épaisseur de sable et découvrirent les restes d'un homme de grande taille. Des pêcheurs, en plantant des piquets pour y faire sécher leurs filets, seraient tombés plusieurs fois sur des crânes ou des squelettes ensevelis aux os couleur de sable. » Une correspondance également entre Amand Henry et un vacancier, Pierre Biche, nous indique également la découverte d'un squelette près de la plage des Broches. De plus, de nombreux maçons, dont mon grand-père, Moïse Chauviteau, ont largement témoigné de la découverte de ce type de vestiges lorsqu'ils allaient chercher du sable pour la construction dans les diverses carrières de cette côte. De plus, Maurice Essel a eu la chance de retrouver une carte de l'île datant de 1796, sur laquelle est indiquée noir sur blanc la mention « Cimetière des Noyers » avec une croix au niveau de la pointe de la Gournaise. Mais depuis 1999, dans quelles circonstances ces squelettes ont-ils été découverts? Comme vous le savez, à l'Île-Dieu comme ailleurs, nous sommes touchés de plein fouet par le réchauffement climatique. Une des conséquences de ce réchauffement planétaire est la remontée des niveaux marins. La côte nord-ouest de l'île, face au vent dominant, est donc fortement impactée par cette érosion du trait de côte. Et chaque année, la surface de la dune diminue à la faveur de la mer qui gagne petit à petit du terrain. Généralement, les découvertes de squelettes sur cette côte se font en hiver, après qu'une tempête conjuguée à de forts coefficients des marées ait entraîné la mer sur le haut du rivage et que cette dernière soit venue lécher la dune, enlevant quelques centimètres de sable et mettant au jour ses ossements. Ces découvertes sont généralement faites par des promeneurs, il s'agit donc de ce que l'on appelle des découvertes fortuites. Ces personnes prennent alors le soin d'alerter soit le service patrimoine, soit la gendarmerie, avec qui nous avons mis en place un protocole d'intervention depuis plusieurs années. Je tiens aujourd'hui à remercier ces personnes, ces découvreurs, qu'on appelle en archéologie des inventeurs, pour leur veille active sur cette côte. Sans eux, ces recherches n'auraient pas pu aboutir et donner des résultats aussi intéressants. Mais alors, que se passe-t-il après que la découverte d'un squelette ait été signalée?
La première chose que je dois faire, après avoir été averti que des ossements soient apparus dans la dune, c'est de prévenir le service régional d'archéologie, qui va me donner une autorisation de sondage ou de fouille très rapidement, généralement dans l'heure qui suit. Et après ça, c'est la course contre la montre, car il faut intervenir très rapidement avant que ces vestiges ne partent à la mer avec la prochaine marée haute. C'est ce que l'on appelle des interventions d'urgence qui se déroulent la plupart du temps dans des conditions très difficiles, car principalement l'hiver et en pleine tempête. Il faut donc pouvoir collecter un maximum d'informations concernant la sépulture en un minimum de temps. Le problème majeur qui se pose alors, c'est que la dune dans laquelle se trouve le squelette est fragile et protégée. Donc, quand il y a des plantes sur le dessus de la dune où repose le squelette, je n'ai pas le droit de faire une fouille afin de ne pas porter atteinte au couvert végétal plus que nécessaire. Dans ce cas, je peux seulement faire des observations en coupe de dune et collecter les ossements après chaque marée haute. Évidemment, c'est extrêmement frustrant, car dans ce cas, beaucoup d'informations concernant cette sépulture partent à la mer sans que je ne puisse rien y faire. Par contre, si le squelette se trouve dans la dune mais qu'il n'y a pas de couvert végétal par-dessus, là, je peux faire une vraie fouille, ce qui est beaucoup plus intéressant car je peux récolter de nombreuses données et faire diverses observations nous permettant d'en savoir plus quant à la manière dont cette personne a été ensevelie dans le sable. De plus, il faut savoir que les ossements qui reposent dans le sable ont l'avantage d'être extrêmement bien conservés. En effet, le sable contient des restes de coquillages chargés de carbonate de calcium qui donnent à ce sol un pH élevé, très protecteur pour ce type de vestiges. Ainsi, des ossements déposés dans le sable peuvent se conserver plusieurs millénaires, alors que des ossements déposés dans la terre de l'île, beaucoup plus acides, ne permettra pas une conservation très longue.
La question primordiale qui se pose alors est: mais qui étaient ces personnes enterrées là, dans le sable de la dune? Bien sûr, très vite, nous avons imaginé, et notamment grâce à la carte de Maurice Essol de 1796, qu'il s'agissait là d'un cimetière pour les noyés. C'est-à-dire que lorsqu'un naufrage se produisait sur cette côte, les noyés que l'on retrouvait par la suite sur le rivage devaient être enterrés à proximité, dans la dune. Comme vous le savez, cette côte est extrêmement dangereuse pour la navigation. On ne dénombre pas moins de 500 naufrages autour de l'île, avec une grande concentration sur cette zone. En effet, le chenal maritime qui permet de rejoindre l'estuaire de la Loire depuis le sud passe au large de la pointe du Butte. Et cette côte possède également de nombreux récifs, celui des Chiens Perrins ou encore ceux des Petits Champs et des Grands Champs, et entre les deux, le haut fond de Basse-Flore. À l'époque de la marine à voile, comme le trafic maritime était très important sur cette zone, il est évident qu'à cause des récifs et autres dangers, les naufrages y étaient très fréquents. Et pour en revenir à notre problématique de départ, qui sont ces personnes enterrées là? À part la carte de 1796 qui indique à la pointe de la Gournaise la mention « cimetière des noyés », rien n'attestait vraiment que ces squelettes étaient réellement des noyés que l'on enterrait ici. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons commencé par faire dater au carbone 14 chaque défunt et les résultats sont assez incroyables. Nous nous sommes rendus compte que ces personnes ne sont pas mortes à la même époque. Le plus ancien squelette datait tout de même du 11e siècle et le plus récent du 17e siècle. Et les autres sont morts entre ces deux périodes, c'est-à-dire au 12e, au 13e, au 14e, au 15e et au 16e siècle. On a donc là des sépultures qui datent de toutes les époques et pas d'un seul moment bien spécifique, comme par exemple des défunts qui auraient été inhumés là après un seul naufrage. Non, pas du tout. Nous n'en avons pas retrouvé de plus récent non plus, du 18e ou du 19e siècle par exemple, car à partir de la grande ordonnance de la marine de Colbert de 1681, il n'était plus autorisé d'enterrer des défunts comme ça, dans la nature. Cette ordonnance prescrivait clairement la conduite à tenir en cas de découverte de corps noyés qui devaient être enterrés dans un cimetière. Avant cette date, on peut imaginer que les personnes qui découvraient ces corps n'avaient aucun moyen de les identifier. Ne sachant pas s'ils étaient chrétiens ou non, ils ne souhaitaient pas les enterrer en terre consacrée au cimetière de Saint-Sauveur.
Donc, il les enterrait au plus près du lieu de leur découverte, en haut du rivage, dans la dune. Puis, lors des fouilles et sondages que j'ai réalisés sur ces sépultures, j'ai pu faire un point sur les pratiques funéraires. Tout d'abord, comment étaient enterrés ces défunts ? Eh bien, seulement des dépôts individuels ont pu être identifiés, c'est-à-dire qu'une seule personne était enterrée dans une fosse funéraire. On aurait pu imaginer que si plusieurs noyés étaient arrivés à la côte en même temps, qu'on ait pu les enterrer dans la même fosse funéraire. Mais dans l'état actuel des découvertes, chaque défunt a bénéficié de son propre lieu de dépôt. Autre question qui se pose, ces défunts étaient-ils enterrés dans un contenant funéraire type cercueil ou autre ? Eh bien non, aucun témoin d'un contenant funéraire n'a pu être mis en évidence. Ces défunts témoignent même d'une décomposition en espace colmaté et indiquent donc une inhumation à même le sable. Ensuite, sur le terrain, il m'a été possible d'identifier la position de 10 défunts dans leur fosse funéraire. 5 étaient en décubitus dorsal, c'est-à-dire simplement allongés sur le dos. 4 étaient en décubitus ventral, donc allongés sur le ventre. Et 1 se trouvait en décubitus latéral droit, c'est-à-dire tourné sur le côté droit. Les chercheurs s'accordent à dire que la position la plus courante en territoire chrétien est en décubitus dorsal, allongé sur le dos. Mais ici, la position non conventionnelle de 5 d'entre eux, sur le ventre ou sur le côté, pose un certain nombre de questions. La position sur le ventre, face contre terre, est bien souvent jugée comme dégradante, réservée à des défunts auxquels on n'accorde que peu d'importance, voire même une vraie manifestation d'opprobre et de rejet. C'est ce que l'on appelle des sépultures infamantes. Mais cette position peut aussi être le résultat de la manière dont on inhumait ces personnes. En effet, ceux qui retrouvaient ces noyés creusaient une simple fosse funéraire dans le sable de la dune, puis devaient faire basculer le défunt à l'intérieur sans grand ménagement. La décomposition rapide de ces cadavres une fois hors de l'eau devait nécessiter sans doute un ensevelissement hâtif. En ce qui concerne l'orientation des individus dans leur fosse funéraire, on a là une grande homogénéité car 90% d'entre eux reposaient selon un axe nord-ouest-sud-est avec les pieds au sud-est. La pratique chrétienne majoritaire en matière d'orientation des défunts, qui a fait l'objet d'une prescription de l'Église à partir du XIe siècle, impose que la tête soit disposée à l'ouest et les pieds à l'est. Bien que la majorité des défunts étudiés ici reposaient selon une orientation qui s'en rapproche, aucun n'était orienté de manière stricte suivant un axe ouest-est. Un reposait même selon une orientation opposée avec la tête à l'est. Il s'agit donc là encore d'un écart des prescriptions religieuses qui pourrait traduire le peu de cas fait de ces cadavres. Ensuite, des objets ont-ils été enterrés avec ces défunts ? Eh bien, presque aucun n'a été retrouvé. Seuls 3 individus étaient accompagnés d'accessoires d'origine vestimentaire ou d'objets de parure, comme une boucle de ceinture, un pendentif en forme de croix et l'ardillon d'une boucle de ceinture. Le peu de choses conservées sur ces personnes indique qu'ils ont probablement été dépouillés avant leur inhumation. Et quelle était la situation de ces sépultures à l'époque ? Ces inhumations apparaissent aujourd'hui proches du rivage, mais il faut imaginer que ces dépôts ont dû être réalisés à l'époque en retrait de la côte, à une bonne distance du rivage, dans des zones que la mer ne pouvait pas atteindre à l'époque. Les défunts ont donc vraisemblablement été portés sur quelques mètres avant d'être basculés dans une fosse creusée au préalable. Il s'agit donc bien de dépôts intentionnels, mais pas du tout d'ensevelissement naturel par le sable et le vent, par exemple. Il s'agit donc bien d'une action volontaire de la part de ceux qui ont trouvé ces défunts sur le rivage. Et pour faire parler encore davantage ces ossements, nous avons demandé à une anthropologue, Delphine Linard, d'étudier ces squelettes. Et ses observations ont été révélatrices. Tout d'abord, la question première pour savoir s'il s'agissait bien de marins noyés a été de définir leur sexe. À cette question, il a été aisé de voir qu'il ne s'agissait là que d'individus masculins. Donc, pour le moment, l'hypothèse de marins noyés tient. Cet ensemble est donc très particulier et signe bien une différence notable avec une population dite naturelle. En effet, si on avait enterré par exemple des personnes à cet endroit suite à une épidémie, il y aurait eu des femmes, des enfants et des nourrissons. Que là non, nous avons que des hommes. Mais quel était l'âge de ces hommes ? La majorité d'entre eux étaient des sujets adultes qui avaient plus de 20 ans. Un avait même plus de 50 ans. Quatre sont décédés quant à eux avant 20 ans et le plus jeune avait entre 7 et 13 ans. Donc tous ces hommes étaient en âge de naviguer, même le plus jeune, âgé de 7 à 13 ans, car les marins étaient autrefois recrutés très très jeunes. Ensuite, l'état de conservation des squelettes a permis d'apporter d'autres renseignements. Il a notamment été possible d'observer que les articulations labiles des défunts ont été préservées, c'est-à-dire les articulations les plus fragiles, celles des mains ou des pieds par exemple. Ce qui signifie que l'ensemble de ces dépôts étaient ce que l'on appelle des sépultures dites primaires. Mais qu'est-ce qu'une sépulture primaire ? C'est tout simplement l'apport d'un cadavre frais, donc peu de temps après sa mort, dans son lieu de dépôt définitif. L'ensevelissement de ces corps s'est donc opéré avant le début de leur décomposition, sans quoi les articulations labiles n'auraient pas été préservées. Donc, pour résumer, les défunts enterrés sur la côte Norrois étaient des cadavres frais, avant leur décomposition. Il est donc vraisemblable que le laps de temps entre le moment où le corps a été rejeté sur le rivage et sa mise en sable ait été relativement court. On sait que la putréfaction d'un cadavre est deux fois moins rapide dans l'eau que dans l'air. Par contre, une fois hors de l'eau, le cadavre qui était immergé se dégrade très très rapidement. De plus, cette analyse archéo-anthropologique nous a permis d'en savoir plus sur l'état sanitaire des individus. Tout d'abord, concernant l'état bucco-dentaire de ces défunts, ils montrent tous des signes d'une santé bucco-dentaire très fragile, même chez les individus les plus jeunes, la plupart ayant perdu un nombre important de dents pendant leur vie. En ce qui concerne les pathologies observées, la majorité des individus ont montré de graves signes d'arthrose, arthrose de l'épaule, du coude, des hanches, du poignet et du genou. Les arthroses du coude et du genou ne sont généralement pas dues à l'âge, mais toujours la conséquence de traumatismes. Ce sont des arthroses dites secondaires. Elles révèlent donc ici une sollicitation mécanique importante des bras de ces individus, ce qui est tout à fait envisageable quand ces personnes pratiquaient le métier de marin, notamment du fait du maniement des bouts et des voilures. De plus, trois individus présentaient de grosses hernies intraspongieuses. Ce sont des hernies situées entre les vertèbres. Ce type de pathologie est extrêmement douloureux et est attribué à une activité physique très très intense. Pour conclure, comme vous avez pu l'entendre, tout nous porte à croire que ces sépultures étaient bien celles de marins noyés venus s'échouer sur le rivage après le naufrage de leur bateau dans les environs. En effet, cet ensemble est composé uniquement d'individus masculins en âge de naviguer. Le plus jeune, âgé de 7 à 13 ans, avait un âge qui n'était pas incompatible avec le métier de marin. L'état sanitaire des défunts, avec de l'arthrose des coudes et des genoux, ainsi que des hernies intraspongieuses entre les vertèbres, semble refléter une activité physique intense, tout à fait cohérente là aussi, avec le métier de marin de l'époque. Ces différentes observations ont également permis de comprendre les gestes funéraires qui ont été pratiqués sur ces défunts. Quand le noyé arrivait à la côte, il se dégradait très rapidement, il fallait donc vite l'enterrer. Sans identité, il ne pouvait pas être inhumé au cimetière paroissial en terre consacrée, car on ne savait pas quelle était sa religion. On creusait donc une fosse dans le sable de la dune, suffisamment en retrait du trait de côte, puis on faisait basculer le noyé dedans et on rebouchait. Il s'agissait d'inhumations hâtives, du fait du peu de cas qu'on faisait de ces défunts et d'une décomposition rapide. Il fallait donc enterrer ces personnes le plus rapidement possible. Cette pratique s'est déroulée sur une période très longue, entre le XIe et le XVIIe siècle, et s'est vraisemblablement arrêtée avec l'ordonnance de Colbert en 1681. Et parmi ces squelettes, le squelette numéro 8 est allé faire récemment un voyage vers Toulouse afin d'être étudié par le professeur Jean Zamit. En effet, ce squelette présente une pathologie importante appelée hypertélorisme, c'est-à-dire que la largeur entre les yeux de cette personne était très très élevée, ce qui pourrait être dû à une anomalie génétique potentiellement handicapante. Cette pathologie n'existe plus aujourd'hui sur notre planète, d'où l'intérêt pour ce chercheur d'étudier notre squelette numéro 8. Enfin, du fait de l'érosion du trait de côte, d'autres sépultures de ce type sont apparues sur le littoral français, mais par parcimonie. Notamment un squelette sur l'île de Molène dans le Finistère et trois autres sur l'île de Bréa. Le cimetière des Noyers de l'Île-Dieu reste donc unique en France pour le moment par le nombre important de sépultures. Il est prévu en 2021 que j'organise avec le service régional de l'archéologie une table ronde sur cette problématique qui réunira mes collègues du continent et des autres îles sur ce thème très intéressant des sépultures côtières de noyers. J'ai déjà eu la chance de présenter mes recherches aux étudiants et chercheurs des universités de Nantes et de Rennes. Donc désormais, si vous allez vous promener sur la côte norrois, ouvrez l'œil. Et si vous trouvez des ossements, n'hésitez pas à me contacter au service du patrimoine de la mairie. Chaque découverte amène son lot d'indices permettant d'en savoir plus sur ce site. Je vais à présent rendre l'antenne. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Portez-vous bien et à bientôt !